Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Marc-Étienne de Bézieux, comme donc Jean précédemment a pu le dire. Je suis le pasteur de l'Église. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Et on va ouvrir la Bible maintenant dans le livre des Actes, donc dans le Nouveau Testament au chapitre 17. Et c'est donc un épisode où Paul, l'apôtre Paul, est en route dans ses voyages missionnaires en train d'annoncer justement cette bonne nouvelle. Comme Jésus lui-même l'a ordonné, on l'a vu ça aussi à la fin de Marc chapitre 16. Il est en train de faire ça comme nous-mêmes, nous devrions le faire et nous sommes demandés par Jésus de le faire, comme nous l'avons fait la semaine dernière, tout particulièrement pendant notre semaine pour découvrir la bonne nouvelle ici à Cavaillon. Donc Paul est en route et donc il visite un peu différentes contrées autour du bassin méditerranéen. Et le voilà qu'il arrive dans la grande ville d'Athènes, la ville, la capitale de la Grèce à l'époque, comme encore actuellement. Et je vais pas lire cette partie-là, mais on est dans Actes au chapitre 17, et on voit donc à partir du verset 16 un petit peu la situation. Paul qui arrive, il se balade un petit peu dans la ville, il fait un peu du tourisme. Et il arrive donc sur l'Aréopage. Alors j'imagine que vous avez tous des images, des photos peut-être que vous avez vues sur Internet ou peut-être vous avez voyagé jusque là-bas et voyez cet Aréopage, ce grand endroit un peu sur les hauteurs d'Athènes où il y a des temples de partout, des hôtels de partout. En fait, il y a tellement de dieux que Paul est exaspéré à la vue de tout ça. Il se dit mais en fait, qui est-ce qu'ils adorent tous ces gens? Est-ce que c'est tel dieu, tel dieu, tel dieu? Il faut vous imaginer vraiment un endroit où il y a plein de statues. En face de chaque statue, il y a des autels en pierre. Et ces autels en pierre, c'est pas des petites choses, d'accord? C'est des grandes tables, c'est monumental. Juste les restes qui ont traversé les âges jusqu'à nous, ils nous parlent quand même de la grandeur, de la magnificence que ça devait avoir à l'époque. Donc des gros autels en pierre, volumineux. Et chacun d'eux est l'endroit où des croyants viennent offrir un sacrifice à leur dieu, rendre un culte à leur Dieu suivant un rite précis. La Bible ne nous explique pas tous ces rites-là, mais on voit juste cette diversité de dieux, cette diversité de façons de rendre un culte. Et j'invite à juste suivre l'apôtre Paul en promenant nos regards, nous aussi, tout autour de l'Aréopage. Essayez de juste visualiser, vous imaginer. On peut voir par exemple une statue ici pour Zeus, avec un autel devant. On peut voir ici une statue pour Baal, et puis devant un autel. On peut voir une statue et un autel dédié à Diane d'Éphèse. Une statue et un autel qui appartient au culte de Ra, le dieu soleil des Égyptiens. Il y a toutes sortes de mélanges là. Alors la première pensée qu'on aurait, tout comme Paul, c'est « Oula, ah, ici on est au milieu de gens qui sont très religieux. Ils ont conscience qu'il y a un monde spirituel, ils ont conscience qu'il y a plus que le matériel. » On est devant des gens qui sont profondément religieux. Un peuple multiculturel, il y a un mélange, il y a un brassage, il y a diversité de cultes, de cultures aussi. Et un peuple qui se voue à une multitude de déités pour une multitude de raisons. Et si vous y réfléchissez un peu avec moi, en fait, l'Athènes d'il y a plus de 2000 ans, ça ressemble fort à notre monde aujourd'hui, à Cavaillon. En France, en 2016, on peut aussi choisir la spiritualité qui nous plaît. On vit dans une société pluraliste, ça fait la une même des médias en ce moment. Il y a tellement de réponses différentes qui sont exprimées sur la façon dont nous pouvons connaître Dieu, le divin. Il y a les musulmans qui présentent leur réponse dans les mosquées. Il y a un intérêt croissant pour la spiritualité bouddhiste en France. Juste à Cavaillon, il y a une synagogue juive qui nous rappelle que, même si elle est plus aujourd'hui en fonctionnement, il y a eu des gens ici qui pratiquaient la religion juive. Les catholiques veulent dire leur mot, les protestants aussi, forcément. Et il faut qu'on constate aussi, il y en a beaucoup qui ne cherchent plus Dieu dans le sens divin transcendant. Ils ont simplement cru ce qu'on leur a dit. Ils se contentent de valeurs, des bonnes valeurs, des valeurs athées, qui en soi ne sont pas mauvaises, mais qui semblent écarter la possibilité ou même l'utilité d'une connaissance d'un Dieu personnel. Est-ce que je me trompe ou ça reflète la situation actuelle? Le monde, vous êtes dans le même monde que moi? C'est bien la même chose qu'on constate, n'est-ce pas? Beaucoup essayent toutes sortes de choses différentes pour voir si elles comblent le vide, là, dans le cœur, si elles peuvent les satisfaire. On se dit, ah, si seulement j'avais plus de connaissances, il me faudrait ce diplôme en plus. Alors ma carrière serait beaucoup plus satisfaisante. Je serais davantage respecté par mon entourage. Et ça, ça comblerait bien le petit trou là dans mon cœur. Voilà, on se dit, bah, si je mangeais un peu plus équilibré, j'aurais une ligne parfaite et tous les regards se tourneraient vers moi, je trouverais un partenaire plus beau, plus conforme à mes exigences et là, ah, ça serait la vie à fond. Ah, si j'avais une meilleure santé, je pourrais continuer à profiter davantage de la vie et faire des voyages et faire toutes sortes de choses. Mais il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et vous avez peut-être essayé toutes ces solutions. Et vous avez fait le constat. On n'est jamais vraiment satisfait. Et ça, c'est sans parler des réponses à nos questions les plus existentielles. Je pense qu'on devrait avoir ce même fond d'honnêteté qu'avaient les philosophes athéniens et nous dire qu'il y a un autre Dieu, quelque part dans cet univers, un Dieu inconnu, qui a des réponses à nos questions les plus profondes. Cet auteur chrétien, C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia, peut-être vous connaissez, a dit ceci. « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, alors l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. » Je vous laisse avec cette question-là en fond, et je vous invite à lire avec moi maintenant dans Actes, au chapitre 17, les versets 22 jusqu'à 34. Actes, au chapitre 17, les versets 22 jusqu'à 34. Donc c'est Paul, d'accord, on est à Athènes, au milieu de l'Aréopage. « Debout au milieu de l'Aréopage, Paul dit, « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habite sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Ah, nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Vous voyez peut-être le lien avec Pâques. Paul qui est à Athènes, de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de Christ, il parle en particulier de la résurrection de Christ. Et j'espère que donc cette méditation maintenant sur ce texte nous aide aussi à mieux comprendre ce que nous fêtons aujourd'hui. La première chose que Paul est en train de dire aux Athéniens, c'est que Dieu ne dépend pas de nous. En fait, c'est nous tous qui dépendons de lui. Et ça, c'est pour tout. Tout dans notre vie, pour tout, nous dépendons de Dieu. Qu'on le veuille ou non, c'est nous qui dépendons de Dieu et pas l'inverse. Regardez ce qu'il affirme. D'abord, il nous rappelle que Dieu, il est le Créateur et pas une créature. C'est lui qui a tout créé. Tout existe par sa volonté et parce qu'il a fait venir les choses à l'existence. Verset 24, par exemple. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. » Donc prenez ce qu'il y a dans l'univers, aussi loin que vous pouvez l'imaginer, vers les astres, vers le fin fond de l'univers, des galaxies, etc. Et prenez ce qui est sur Terre, jusqu'à l'infiniment petit que les scientifiques continuent de fouiller, de chercher avec leur microscope. Eh bien, Dieu est maître de tout ça, sans exception. Et ça, c'est parce que c'est lui qui a fait tout ça. Il est à l'origine de tout, à l'origine de chaque chose spirituelle ou matérielle. Il y a Dieu. Et du coup, c'est pas nous qui pouvons fabriquer une maison pour Dieu, vu qu'en réalité, c'est nous qui habitons dans la maison que Dieu a créée pour nous. C'est nous qui habitons dans son monde. Toujours dans le verset 24, on voit ça. Et il n'a pas non plus besoin d'être servi par les hommes. En réalité, l'apôtre Paul, il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est Dieu qui nous sert. Jour après jour, Dieu nous donne la vie, le mouvement et l'être. Chaque seconde, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne tout avec, à manger, un toit sur nos têtes. Toutes les bonnes choses et toutes les choses difficiles. Mais tout vient de Dieu. Tout est des choses que Dieu fait venir. Rien n'échappe au contrôle et à la volonté de Dieu. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Là, cette respiration, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et là, celle-là aussi, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tout est don de Dieu. Waouh! Et Paul continue, il dit, Dieu même domine les gouvernements, les questions des géopolitiques. Il suffit d'ouvrir la télé, les flux de migrants qui arrivent. Tout ça, mais en fait, c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est lui qui a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur la surface de la terre. C'est lui qui détermine la durée des temps et les limites. Il fixe des limites dans le temps et dans l'espace. L'Empire romain, qui est apparu, qui a été jusqu'à son apogée, qui a disparu. Mais Dieu était au contrôle de tout ça. La civilisation égyptienne, les pyramides, on a encore un témoignage jusqu'à aujourd'hui. Elle est apparue, elle a monté en puissance, elle a disparu. Mais Dieu était derrière tout ça. L'Empire britannique, Napoléon, la Chine ou l'Europe, au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui règne. Il était là avant que ces organisations soient en place. Et il sera là encore après. Voyez, Paul, il ne croit pas à la thèse du Dieu de Voltaire, selon laquelle Dieu, après avoir créé le monde, a remonté la machine, comme un grand horloger, il l'a lancé, et puis s'est retiré des affaires du monde, et il laisse juste poursuivre sa course, selon une logique purement mécanique, en train d'être spectateur du monde qu'il aurait créé. C'est Voltaire qui dit ça, « L'univers m'embarrasse ». Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Mais il y a bien plus qu'un horloger, nous dit Paul. Il y a bien plus que ça. Paul écarte l'idée d'un tel Dieu. Paul écarte aussi l'idée que Dieu a un caractère de solitaire, désirant que ses petits-enfants viennent lui rendre visite un peu plus souvent. Vous avez déjà vu peut-être des tableaux, hein, des œuvres d'art religieux, comme on dit, où Dieu est décrit un peu comme ça, hein, un personnage du quatrième âge avec une longue barbe tout là-haut perdue dans les nuages et inaccessible et finalement impuissant, semble-t-il. Et ce n'est pas le Dieu que Paul décrit ici, ce n'est pas le Dieu que Paul connaît même. Dieu n'est pas dépendant de nous pour se sentir bien. Dieu n'est pas dépendant de nous pour manifester sa gloire, pour être satisfait. C'est nous, en réalité, qui sommes dépendants de lui. Ce n'est pas Dieu qui est redevable aux hommes, mais c'est les hommes qui sont redevables à Dieu. Alors, je ne sais pas comment tu conçois ta vie, dans quel cadre tu es en train de faire des décisions, de choisir ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire cette semaine, quel genre de travail, quelle activité. Est-ce que tu as bien conscience qu'au-dessus de ta vie, il y a Dieu, et au-dessus de l'histoire même de ta vie, il y a l'histoire du monde qui est conduite par Dieu. Et que Dieu invite tout homme à rentrer dans son histoire à lui. et non pas de vouloir sortir de cette histoire, de vouloir se rebeller contre le règne de Dieu et son histoire. C'est une première application qu'on voit d'ici. Mais il y a plus que ça encore. Paul, il continue. Il dit, alors, vous cherchez un Dieu inconnu, vous voulez vénérer un Dieu, vous dites, même avec toute cette multitude de dieux, il doit y avoir quelqu'un encore autre. Et il vient de présenter en quelques mots. Et il avertit maintenant les Athéniens en disant, Dieu est le Dieu véritable et non un produit de notre cœur ou de notre intelligence ou de notre imagination. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu l'a voulu. Et le Dieu d'amour qui nous a créés veut que nous puissions le connaître et que nous établissions une relation filiale avec lui, de enfant à papa. Regardez avec moi les versets 26 à 28. D'un seul être, Dieu a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous. Tout parent désire avoir une bonne relation avec ses enfants, n'est-ce pas ? De les connaître, pas juste les connaître superficiellement, mais qu'est-ce qui les motive ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? C'est quoi le moteur là à l'intérieur de leur cœur ? Et de vivre en paix, en bonne relation avec eux. C'est naturel, n'est-ce pas ? De la même manière, verset 27, Dieu veut que les hommes soient en relation avec lui. Dieu invite les hommes à le chercher, à le trouver, peut-être comme à tâtons. Mais Dieu, en tout cas, pour ceux qui le concernent, ne nous tient pas à distance. En fait, il est proche de chacun. Il n'est pas loin de chacun de nous. Il est intimement impliqué dans notre vie. Il nous attend comme un père attend ses enfants. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de relation avec lui. Et puisque nous avons été créés pour en avoir une, justement, nous sommes insatisfaits. Nous cherchons des alternatives, des réponses. Au lieu de nous tourner vers lui, nous fabriquons des dieux selon notre idée. Et Paul, il essaie de casser cette manière de faire. Et quand on lit, ça paraît tellement logique. Mais quand on doit l'appliquer pour notre propre vie, quand on est à côté de la plaque souvent, nous ne devrions pas penser que Dieu est quelque chose fait par l'homme. Le point essentiel de Paul, c'est que les dieux que nous façonnons sont forcément inférieurs à nous parce qu'ils sont notre création. Si on peut les dominer, ils ne nous sont d'aucun secours. Ils ne peuvent pas nous satisfaire. Et ça ne vaut pas la peine d'adorer ou de vivre pour de tels dieux. Imaginez Paul au milieu de l'Aréopage à Athènes avec des grandes statues, des grands hôtels, des gens qui ont mis de l'argent, énormément d'argent, qui ont mis tout leur art pour faire que ce soit grandiose, qui ont pris du temps pour faire tout ça. Et il dit, tout ça, ça sert à rien. J'imagine qu'on a dû entendre des mouches voler dans l'Aréopage à ce moment-là. Parce que justement, ceux qui l'écoutaient vivaient alors pour Ra, le dieu du soleil des Égyptiens, ou pour Diane d'Éphèse, ou pour l'un des multiples dieux représentés en statue sur la place de l'Aréopage. Et qu'est-ce qu'ils espéraient ? Recevoir de la part de ces dieux la guérison ? La fortune pour être à l'abri et mettre à l'abri ses enfants ? Une intervention pour débloquer une situation compliquée ? Pour apporter la paix dans le couple ou la famille déchirée ? Et Paul, il annonce haut et fort, là, dans ce chef-lieu de la religion grecque, qu'il ne vaut pas la peine d'adorer ces statues. Elles ne sont pas des dieux, elles sont de vulgaires contrefaçons du véritable Dieu. Mais de nouveau, soyons un peu honnêtes, c'est pas qu'une question d'antiquité, c'est pas que c'était comme ça à l'époque, en Occident aussi. Aujourd'hui, en France, nous ne cherchons pas à honorer le Créateur non plus. Nous aussi, notre tendance, c'est de vénérer ce qui est créé au lieu de rendre un culte au Créateur. Il y a bien des idoles à Cavaillon en 2016 qui reçoivent un culte quotidien. Une idole, selon le petit Robert, c'est une personne ou une chose qui est l'objet d'une sorte d'adoration. Et l'adoration, on a fait une longue série sur ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Mais voilà, la version courte, selon le petit Robert, c'est aimer d'un amour ou d'une affection passionnée quelqu'un ou quelque chose. À la différence des philosophes, beaucoup d'Occidentaux ont rejeté l'idée d'un dieu sous forme de statue. Peut-être ça vous fait rire. Peut-être que intérieurement vous dites, ça c'est pas nous quand même. On est un petit peu plus évolué que ça. Mais même si on fait plus des statues, en pierre, en argent ou je ne sais quoi, on cherche désespérément à remplir notre vie d'espoir et de signification. Faute de connaître Dieu, le risque c'est de plonger dans la recherche de substituts, les belles choses de la vie, pour pouvoir combler le vide que l'absence de Dieu laisse dans notre cœur. Si on prend la spiritualité dans son sens large, il y a ainsi de nombreuses personnes qui vivent pour les biens immobiliers, peut-être. Alors ça les rassure, ils se sentent en sécurité, ils se sentent protégés par une sorte de Dieu bien immobilier. C'est bon, j'ai ma maison, elle est belle, elle est bien entretenue, elle est solide. Ou la santé, la sécurité financière, savoir qu'on a plein de choses dans le compte en banque. Peut-être c'est autre chose, c'est un peu plus relationnel. Alors on cherche la femme ou l'homme parfait, celui ou celle avec qui on va trouver le vrai bonheur. Il y a plein de manières d'adorer autre chose que le Créateur, d'adorer des belles choses que Dieu a faites, mais non pas lui-même le Créateur. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Dieu est souverain sur son monde et il veut qu'on le connaisse parce que, c'est ma troisième et dernière partie, le jour vient où il va juger avec justice tout être humain. On a d'abord entendu par Paul que Dieu a tout créé. Ensuite, Paul a parlé de l'homme, ce qu'il a fait, c'est-à-dire il s'est détourné du Créateur pour faire ses propres dieux. Et on arrive au moment où Paul explique à ses auditeurs ce que Dieu attend maintenant de eux. Regardez ce que Paul dit au verset 31. Il a fixé un jour, c'est de Dieu dont on parle, où il va juger toute la terre habitée, selon la justice. Et on regarde un petit peu plus loin, qui va faire ce jugement? Qui va faire les comptes? Et qui va rendre la justice? On voit toujours au verset 31, il va rendre justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Alors on continue, mais c'est qui? C'est qui? Toujours au verset 31, qui est cet homme? Eh bien, cet homme, il a donné une preuve à tous, certaine, que c'est lui qui va juger le monde en le ressuscitant d'entre les morts. C'est le lien avec aujourd'hui, avec Pâques, n'est-ce pas? Celui qui jugera le monde avec justice, c'est celui qui a été ressuscité des morts. Il s'agit de Jésus, le Christ. Et l'argument de Paul est le suivant. Ce que je vous dis, c'est pas sans preuve. C'est pas juste un débat d'opinion maintenant. Vous pensez comme ça, moi je pense comme ça, et puis en fait, ça va être difficile de départager les uns les autres. Non. Tout ce que j'affirme ici, tout ce que Paul a dit auparavant, il y a des preuves certaines. La preuve ultime, c'est que cet homme Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Il était bel et bien mort, enseveli dans un tombeau pendant 3 jours, puis il est revenu d'entre les morts. C'est du jamais vu, je vous assure que cela s'est vraiment passé. Ce n'est pas le moment de détailler toutes les données historiques qui étaient la résurrection. On en a lu quelques-unes tout à l'heure dans Marc. Il y en a suffisamment, et cela pourrait être le sujet d'une autre prédication comme celle-ci. Ça pourrait aussi être l'objet de certaines discussions dans le parcours découverte qu'on vous propose de suivre, si vous voulez, au moment où on aborderait les évangiles et la personne de Jésus-Christ. Donc en avril, une session de 6 séances, 6 soirées, pour mieux comprendre le sens de la Bible, le message essentiel de la Bible. Si vous êtes intéressé, venez m'en parler, inscrivez-vous pour ça. Mais pour l'instant, je vous invite à imaginer que vous êtes persuadé, d'accord, que Jésus est vraiment ressuscité, si ce n'est pas déjà le cas, et d'explorer avec moi les conséquences de la résurrection. Au verset 30. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. C'est-à-dire, il fait référence à notre rejet de Dieu, notre cœur qui est sans cesse en train de fabriquer des idoles d'autres dieux. Dieu ne tient plus compte de ça, il ne souhaite pas que ça continue comme ça. Aujourd'hui, il annonce à tous et partout que tout être humain doit changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Donc il y a un commandement de Dieu ici. Il y a un appel net de Dieu, une claire invitation de la part de Dieu, de se détourner des choses que nous vénérons à la place de lui, et de se tourner vers lui, de le traiter comme le Père qu'il est, comme notre Créateur. Et nous avons besoin de nous tourner vers Dieu avant qu'il nous demande de lui rendre des comptes pour ce que nous aurons fait de tous les dons qu'il nous a donnés, la vie, le mouvement et toute chose. Mais que se passerait-il si nous devions nous tourner vers lui? Que se passera-t-il si même ce matin vous deviez vous dire « Oui, je vais me tourner vers lui ». Qu'en est-il de ces années passées à ne pas traiter Dieu comme il se doit, comme le Créateur? Qu'en est-il de toutes les offenses que j'ai occasionnées dans le passé? Qu'en est-il des offenses que je commettrai dans le futur, malgré mes meilleures intentions? Sur quelle base être pardonné? Juste, je veux ouvrir une petite parenthèse. Si nous rejetons, pour affirmer encore des choses de Paul, si nous rejetons la réalité de la création, si nous disons il n'y a pas de Dieu, alors nous sommes sans explication pour le sens de notre vie. Nous n'avons aucune base pour notre éthique. Pourquoi chercher à faire le bien? Pourquoi essayer de éviter le mal? On n'a aucune base pour juger ce qui se passe dans le monde et dans notre vie. Et donc, pourquoi être offensé? C'est un peu fort ce que je vais dire, mais pourquoi être offensé dans ce cas-là par les attentats qu'on a vus à Bruxelles ou à Paris, si nous ne sommes que des atomes qui se sont agglomérés par hasard, le produit d'une évolution qui a démarré par hasard et qui disparaîtra de la même manière qu'elle serait apparue, du néant vers le néant? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça nous fait tellement réagir alors? Pourquoi est-ce qu'on dit « Ah, c'est pas normal !» Il faut qu'il y ait de la justice pour ça. Pourquoi être touché ou blessé si on vous a dit une parole mauvaise? Si vous êtes victime d'une injustice de votre banque ou de votre garagiste? Pourquoi est-ce que vous réagissez si jamais vous n'avez pas idée que Dieu est là? En fait, c'est une bonne nouvelle que Paul est en train d'annoncer, parce que toutes les choses, qu'elles soient peu ou très graves, qui ont été faites contre nous, seront jugées. Et il y aura un juste juge qui va établir la justice pour nous, en notre faveur, pour toutes les fois où on a été victime. Mais, mauvaise nouvelle, nous avons fait nous-mêmes des choses contre les autres. Et qu'elles soient peu graves à nos yeux, ou que nous soyons conscients de leur gravité, nous devrons être nous-mêmes jugés pour que la justice puisse être rendue. Il n'y a pas de paix sans justice. Le monde ne peut pas être beau sans justice. Et le plus grave problème, ce que Paul est en train de dire, que nous avons, vous et moi, c'est l'injustice que nous avons faite à Dieu, la personne la plus digne, la plus honorable, la plus précieuse, la plus grande dans l'univers. Nous avons offensé Dieu lui-même, notre Créateur et notre Père. Comment être pardonné alors? Sur quelle base? La chose extraordinaire et la chose la plus importante que je vais dire, c'est maintenant. C'est au sujet de cet homme qui a été ressuscité des morts. Avant qu'il ait été ressuscité, il a d'abord été tué. Dieu, dans son amour extraordinaire pour nous, a envoyé son Fils parfait, Jésus. Et Jésus, la Bible affirme du début jusqu'à la fin, est mort à notre place. Jésus, à travers son exécution, a pris la punition que nous méritions à cause de notre faute vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Jésus, celui qui nous jugera à la fin des temps, a déjà payé la pénalité à notre place. Et la mort de Jésus montre la justice de Dieu qui ne laisse pas impunis les péchés. À la croix, Dieu nous montre les profondeurs à la fois de sa colère contre tout ce qui est mauvais à ses yeux. Le mal ne doit jamais aller impuni. Mais en même temps, il nous montre l'ampleur incroyable de son amour à notre égard. Car en permettant que Jésus souffre, le mal a été puni. Dieu n'a pas laissé le mal impuni. Il n'est pas un juge corrompu qui ferme les yeux sur tout ce qui tourne de travers dans ce monde. En même temps, puisque le mal a été justement puni, Dieu peut nous montrer sa miséricorde. Il a jugé le mal, mais la grande surprise, la bonne nouvelle que la Bible annonce, c'est que c'est pas nous qui devons supporter cette punition. Christ a été d'accord de le faire pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu peut alors nous montrer sa miséricorde. Par ses propres efforts, personne ne peut combler les offenses qu'il a faites vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Personne ne peut atteindre la perfection que Dieu exige de nous. Mais par Jésus, à la croix, Dieu nous offre un moyen d'être pardonné, lavé, rendu juste à ses yeux. Alors, nous concluons en regardant un peu les réactions des gens qui étaient sur l'Aréopage à Athènes. Le discours de Paul a soulevé différentes sortes de réactions. Certains se sont dit « Ah, vraiment, laisse tomber, ça vaut pas du tout la peine d'écouter ça. » D'autres voulaient en savoir plus. D'autres ont mis leur foi immédiatement dans le message que Paul leur annonçait et la personne qu'il présentait, Jésus-Christ. Je ne sais pas où vous vous situez ce matin. Je peux juste vous dire que j'aimerais vous encourager à examiner plus ces choses et de revenir une prochaine fois si vous le souhaitez pour en entendre plus. Si ça soulève des questions chez vous, ne repartez pas avec ces questions. À la fin de la partie formelle ici de notre rassemblement ce matin, on va servir un apéritif. Voilà, petite annonce au passage. Vous êtes tous bienvenus. On aimerait bien vous accueillir chacun, chacune. Mais c'est aussi peut-être un moment propice pour poser des questions, pour venir discuter avec un membre de l'Église. Peut-être vous avez besoin de creuser davantage les choses. J'espère que vous repartirez pas en disant « laisse tomber, ça sert à rien ». Et peut-être vous avez mis votre foi déjà en Christ. Alors, j'aimerais que ce message ce matin, ce discours de Paul aux Athéniens vous encourage. Il y a de la vérité dans cette foi-là. C'est une bonne chose, n'est-ce pas merveilleux, de pouvoir savoir que nous sommes en relation avec le Dieu qui a fait toutes choses, celui qui nous donne. N'est-ce pas une bonne chose de nous rappeler que Dieu est notre Père, que c'est lui qui nous sert, qu'il a déjà fait cette maison sublime, et je ne parle pas du bâtiment ici, mais de juste cet univers dans lequel on se trouve, pour que nous puissions habiter. Et cet univers qui est marqué par le péché va disparaître le jour où Jésus vient pour juger. Mais Dieu, s'il est capable de faire ça, va faire, et il l'a promis, une nouvelle création, un endroit, une nouvelle habitation où on va pouvoir habiter avec lui pour toujours. Et cette fois-ci, sans plus aucune crainte de pécher contre lui, ni d'être victime du péché des autres. Voilà la promesse de Dieu en Jésus-Christ, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà la preuve certaine que notre foi est au bon endroit. Et j'aimerais que vous puissiez repartir ce matin avec cette joie-là. Alors. De la même manière que Paul exhorte toute personne à Athènes, exhorter toute personne à renoncer à ses dieux et mettre sa confiance dans le seul vrai Dieu, de même, nous ferons bien si nous abandonnons nos faux dieux et nous mettons toute notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Amen.